BPM 102.1 BPM en direct.
Bonjour à tous et bienvenue pour un rendez-vous du Mantois spécial en soirée avec une invitée que le grand public a découvert juste après les élections législatives, une haute fonctionnaire proposée à Emmanuel Macron par le nouveau Front Populaire pour être Première Ministre. Lucie Castet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ce soir en meeting pour le nouveau Front Populaire à Limay aux côtés de Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines, et vous en avez profité pour aller à la rencontre des habitants du Mantois. Quel a été le programme pour vous aujourd'hui ?
Alors, on a fait beaucoup de choses. Ce midi, je suis arrivée, nous avons déjeuné à la cantine dans une école de Limay.
Retour à l'école.
Exactement, retour à l'école. J'avais, moi, plutôt des bons souvenirs de la cantine. Je ne sais pas si on est nombreux dans ce cas, mais moi, j'en ai plutôt des bons souvenirs. Donc, on a déjeuné à la cantine. On en a profité pour rencontrer l'équipe de la cantine, qui est une cantine un peu particulière parce que c'est un endroit qui est tenu en régie par la mairie et qui produit des repas qui produit 1700 repas par jour. Et non seulement pour l'école en question, mais aussi, et c'est un peu original, qui fait des repas, par exemple, pour les personnes âgées dans les EHPAD, mais aussi qui les livre à domicile. Donc, ça maintient du lien social. Donc, c'était vraiment intéressant de visiter cette cantine. Ensuite, nous avons été à la Nouvelle Réserve, toujours à Limay. C'est une librairie indépendante donc qui a été reprise par des libraires, qui a été développée par des libraires à Limay, avec une forte vocation d'implantation culturelle dans la commune. Donc, c'était vraiment très intéressant de discuter avec ces libraires qui sont implantés depuis 10 ans. Qui disent que le modèle économique est fragile, mais qui se sentent un rôle dans le maintien du lien social et du lien culturel sur le territoire. Donc, c'était vraiment intéressant. Ensuite, nous avons été visiter la médiathèque de Limay en compagnie du maire. Nous avons visité l'ensemble de la médiathèque. Nous avons découvert les différentes activités qui étaient proposées. C'est une médiathèque qui fait beaucoup de choses, elle aussi, pour le lien social. Par exemple, ils offrent des ateliers pour lutter contre la fracture numérique, pour aider les personnes qui ne maîtrisent pas du tout les outils informatiques, par exemple, à les maîtriser davantage et donc à se sentir moins coupées des démarches administratives, par exemple. Ça, c'est très intéressant. Et puis, dans cette visite-là, j'ai pu rencontrer le directeur du conservatoire, qui parlait de toutes les politiques qu'ils mettent en place, notamment pour diffuser davantage la musique, la culture musicale dans les catégories sociales qui n'ont pas forcément accès à ça. Donc, c'était vraiment intéressant. Ensuite, nous avons été rencontrer une association qui s'appelle Génération Solidaire, qui fait principalement de l'insertion économique par l'activité économique, notamment dans le domaine du textile, de la couture, mais aussi dans le domaine informatique, du reconditionnement de matériel informatique, téléphonique, etc. C'était vraiment intéressant. Là, on a entendu la directrice, on s'est entretenu longtemps avec elle, la directrice de cette association, qui disait un peu son désarroi face au manque de financement public des activités associatives. Et elle disait aussi l'importance de développer le tissu associatif. Là, c'était au Val-Fouret. Elle disait qu'elle était née au Val-Fouret, qu'elle connaissait très bien le territoire, qu'elle connaissait très bien les populations et que c'était très important que ce tissu associatif continue à vivre et à se maintenir de manière satisfaisante pour pouvoir offrir des débouchés aux habitants de ces territoires qui sont parfois un peu délaissés par les services publics. Donc on a eu une longue conversation là-dessus, c'était très intéressant. Et ensuite, avant de vous rejoindre, on a fait un tour au marché du Val-Fouret. Et c'était très intéressant, on a beaucoup échangé avec les habitants. On a beaucoup entendu la déception des gens face au fait qu'ils ont l'impression que leur vote n'a pas été entendu.
Lors des législatives.
Oui, lors des législatives, ils ont eu l'impression de s'être mobilisés massivement, hein, ce qui est le cas, les statistiques sont significatives, et ils ont l'impression que leur vote n'a pas compté, et donc on a ressenti une forme de colère et de déception dans nos échanges avec les habitants.
C'est ce que vous pourrez aussi échanger ce soir lors du meeting ?
Oui, alors moi dans le meeting, je vais essayer plus de parler de la suite, de l'envie, de l'enthousiasme, du projet, de la mobilisation, de l'union. Plus que de parler de notre déception, je pense que c'est important de signifier notre colère et notre déception face à ce qui existe aujourd'hui, mais je pense qu'aussi c'est important de dresser des pistes pour le futur et pour ce dont on a envie pour la France. Donc voilà, il faut vraiment parler de ça aussi et de ce que la gauche aura à offrir à la France et aux électeurs français dans le futur.
Justement, l'avenir, on va s'y intéresser. Vous avez travaillé à la Direction Générale du Trésor, vous étiez directrice des finances de la ville de Paris. En 2021, vous fondez le collectif Nos Services Publics qui souhaite mettre en lumière les dysfonctionnements et faire des propositions pour améliorer le service public. Si je dis tout cela, c'est pas pour faire votre CV, mais bien parce que le sujet touche chaque Français en ce moment, le projet budget 2025 lancé par le Premier ministre Michel Barnier. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet dont nous apprenons un peu plus chaque jour la rigueur ?
Je pense que c'est un projet qui est effrayant pour la France et pour les services publics et donc pour les habitants de ce pays qui est la France. On a une situation où je pense qu'il faut absolument le rappeler, la situation économique et budgétaire de la France est très inquiétante. On nous dit à longueur de journée que le président de la République est le cadre de la finance et qu'enfin, on allait avoir une politique budgétaire et financière responsable. En réalité, on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. On a aujourd'hui Bruxelles qui a ouvert une procédure pour déficit excessif. Et ça, c'est le résultat direct de la politique qui a été menée pendant 7 ans, qui a reposé essentiellement sur beaucoup de dépenses publiques en faveur des entreprises et une réduction massive de la fiscalité et donc des impôts. Des impôts qui viennent financer l'État, les collectivités et les services publics. On a à peu près 60 milliards d'euros en moins par an de recettes fiscales avec la politique qui a été mise en œuvre par les gouvernements successifs depuis 7 ans. 60 milliards d'euros, il se trouve que c'est l'effort qui a été annoncé par Michel Barnier dans le cadre du projet de loi de finances de 2025. Donc on a 60 milliards qui se décomposent à peu près de la manière suivante, 40 milliards de dépenses en moins, donc des coupes budgétaires sur le budget, et 20 milliards de recettes en plus. Donc il y a une très grande partie de l'effort qui va être demandé à la France, aux Français, qui va reposer sur les classes populaires, parce qu'en réalité, quand on coupe 40 milliards d'euros de dépenses dans le budget, eh bien, les principaux concernés sont les services publics. Et les services publics, comme on le sait, ça s'adresse à tous les Français, et en particulier à ceux qui n'ont pas d'autres moyens, par exemple, pour être éduqués, pour se soigner, etc. Et donc ça va être des conséquences extrêmement concrètes sur les services publics. On sait déjà qu'à la rentrée dernière, et d'ailleurs les maires que j'ai pu rencontrer aujourd'hui me le confirmaient, ils disaient à la dernière rentrée c'était déplorable, on avait énormément d'écoles et de classes sans profs. Là on a annoncé 4000 postes en moins encore pour l'éducation nationale. Et donc la situation va être encore pire, là où on avait besoin d'un sursaut, d'un effort très important. En fait, on va encore détériorer la situation. Tout l'été, j'ai rencontré des gens, des élus locaux qui me disaient « Moi, le service d'urgence dans ma commune, il est fermé la nuit parce qu'on n'a pas assez de soignants. Il y a des gens qui attendent des heures tous les jours aux urgences pour être soignés. Donc au lieu d'avoir un réinvestissement massif qui est nécessaire dans les services publics, on va avoir des nouvelles coupes qui vont venir encore plus détériorer la situation. » Ça, c'est extrêmement préoccupant. Et donc en réalité, on a un président de la République sous son égide, qui a conduit une politique économique qui a conduit à vider les caisses de l'État. Et à l'inverse, là, on va faire financer cette politique économique qui n'était pas responsable et raisonnable et qui n'était pas crédible. On va la faire financer par les services publics, par une casse supplémentaire des services publics. Et donc, ça me préoccupe énormément.
Pourtant, Bruno Le Maire, en partant de son ministère, a déclaré que c'était plutôt la faute des collectivités. Il l'a pas dit tout à fait en ces termes, mais tout le monde l'a un peu compris. Pourtant, les budgets des collectivités locales, elles sont à l'équilibre.
Oui, ça me semble extrêmement de mauvaise foi de blâmer les collectivités territoriales. On sait, les collectivités territoriales ont des règles budgétaires qui sont, comme vous le dites, très strictes, notamment par rapport à celles qui s'appliquent à l'État. Les collectivités territoriales ne peuvent pas s'endetter pour financer du fonctionnement. L'endettement auquel elles ont recours permet de financer des investissements, et ça c'est logique, et ça n'est pas de la dette n'est pas un tabou et n'est pas toujours une mauvaise dette. La question c'est sa soutenabilité, et c'est qu'est-ce qu'elle vient financer. Si la dette vient financer des investissements d'avenir, par exemple si la dette finance des pistes cyclables ou la rénovation thermique d'une piscine municipale ou la rénovation thermique de bâtiments ou de logements sociaux, c'est de la bonne dette. C'est de la dette, c'est normal, elle est financée sur le long terme, on la rembourse année après année, c'est normal, on investit dans l'avenir. Ça n'est pas la responsabilité des collectivités territoriales qui sont plutôt bien gérées. Et par ailleurs, ces collectivités se retrouvent aujourd'hui dans une situation budgétaire qui est extrêmement compliquée du fait de la politique économique qui a été menée depuis 7 ans, puisqu'on a progressivement supprimé les impôts dont pouvaient bénéficier les collectivités territoriales, dont des impôts qui avaient des recettes dynamiques, c'est-à-dire qui étaient dynamiques en fonction de l'activité, et on a remplacé ces recettes fiscales, donc en plus un levier politique intéressant à la main de la collectivité, par des dotations fixes, qui sont fixées une fois pour toutes, et donc qui ne sont pas dynamiques, à l'inverse de l'outil fiscal. Et donc les collectivités ont de moins en moins la main sur leurs finances et la possibilité davantage de recourir à l'impôt, elles l'ont de moins en moins. Et ça crée en plus des difficultés démocratiques, puisqu'il y a de moins en moins de liens entre la collectivité et l'activité économique qui assure son territoire. Elles ont de moins en moins la possibilité de financer leur politique et se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, au point que, par exemple, certains départements aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation où leur seul levier fiscal qui reste, c'est ce qu'on appelle les DMTO, c'est les frais de notaire. En fait, ils sont liés à la santé du marché immobilier. Donc, comme là, en ce moment, le marché immobilier ne va pas très bien, les finances des collectivités départementales, des départements diminuent, là où leurs dépenses sociales, qui sont leurs principales compétences et leurs principales dépenses augmente avec une conjoncture économique difficile, ces départements se retrouvent dans une situation d'effet ciseaux. Elles ont moins en moins de recettes, de plus en plus de dépenses, et donc elles doivent abandonner certaines de leurs compétences non obligatoires ou là où elles intervenaient parfois pour pallier les manques de l'État. Et donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante.
Justement, chaque semaine ici, nous recevons un maire du Mantois et une de leurs inquiétudes qui revient le plus souvent sur notre antenne, c'est de voir cette fameuse dotation globale de fonctionnement, la fameuse DGF, diminuer d'année en année. Pour eux, ils ont le sentiment que l'État se désengage, remettant même parfois la charge sur les collectivités. C'est du coup le sentiment que vous avez?
Oui, c'est tout à fait le sentiment que j'ai. Ce n'est pas un sentiment, hein. C'est vraiment ce que relaient les élus locaux que je rencontre un petit peu partout en France. Et parfois, on peut avoir l'impression que c'est abstrait. Cette espèce, on appelle ça la DGF, vous disiez dotation globale de fonctionnement. Ça peut être une enveloppe abstraite, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la capacité des élus à financer l'avenir et à financer les services publics locaux pour leurs citoyens au jour le jour, au quotidien. Et donc, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Là, on parlait tout à l'heure avec le maire de Limay qui nous disait qu'il était extrêmement préoccupé parce qu'il n'était pas en mesure de financer la rénovation thermique de ses écoles. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demain des enfants qui vont être dans des situations de chaleur extrême en été et qui vont avoir très froid l'hiver, ou alors avec des dépenses énormes en chauffage l'hiver. Donc ça pose aussi des questions écologiques, hein, c'est très important. Et donc ça, c'est très concret, c'est la vie des gens au quotidien. C'est très préoccupant et c'est le quotidien de tous les maires de France.
Aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, hein, il y a quand même plusieurs points à soulever. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour le budget? Comment vous l'auriez pensé? Comment vous l'auriez géré?
Je pense que, et c'est d'ailleurs l'objet des propositions qu'ont formulées les différentes parties du nouveau Front Populaire ensemble, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ils ont dit qu'il fallait rétablir la justice fiscale de notre système économique français. On a aujourd'hui un système qui est distorsif, où les personnes qui gagnent le plus d'argent payent en proportion moins d'impôts que les personnes, les classes moyennes ou les classes défavorisées. C'est pareil pour les très grandes entreprises. En fait, en proportion, les PME, les ETI, les petites et moyennes entreprises et les entreprises moyennes payent en proportion souvent plus d'impôts que les très grandes entreprises, et en particulier celles qui font beaucoup de bénéfices, notamment parce qu'il existe des mécanismes dérogatoires, des mécanismes d'évitement d'impôts, et parce que la fiscalité du capital est moins forte que la fiscalité sur le travail. Et donc, il est impératif de rétablir cette justice fiscale. Cette justice fiscale, ça peut faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État sans pénaliser l'activité économique dès lors qu'on cible les bonnes personnes et les bonnes entreprises. C'est ce que nous proposions. Nous proposions, là, nous avions une dizaine d'amendements communs qui proposent de récupérer 49 milliards d'euros. C'est quand même significatif.
Sur 60 attendus.
Exactement, sur une année. On peut proposer des choses qui montent ensuite en charge dans les années suivantes. Et donc, ça permettrait de rétablir, d'avoir davantage de recettes pour l'État. Et puis aussi de rétablir la justice fiscale en France. Parce qu'il y a une question d'utilité pour financer des dépenses. Et puis, il y a aussi une question de message démocratique. C'est intolérable, à mon sens, d'avoir un pays où les plus pauvres ou les classes moyennes sont plus taxées que les personnes extrêmement aisées. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui explose pour les plus aisés. On a des très grandes fortunes qui continuent à augmenter, là où la précarité est croissante. Il y a des gens, il y a plein d'étudiants, par exemple, qui affirment ne pas être en mesure de manger 3 repas par jour. C'est intolérable dans un pays comme la France. Et donc, il y a à la fois un enjeu d'efficacité économique, puis un enjeu de justice et de démocratie. Et donc, c'est ce que nous proposons. Et puis, par ailleurs, il n'est pas du tout interdit de réfléchir aux dépenses que l'on pourrait réduire. Nous n'avons pas un point de vue dogmatique, à l'inverse du camp présidentiel qui n'a jamais, jamais, jamais voulu envisager de toucher à l'impôt pour l'augmenter. Au contraire, ils n'ont fait que baisser les impôts. Et là, on voit les propositions de Michel Barnier ne recueillent même pas l'assentiment du camp présidentiel qui a menacé de voter contre ces mesures-là. Et donc, nous, à l'inverse, on dit qu'on n'est pas dogmatique, qu'il faut regarder les dépenses. Il y a certainement des dépenses que l'on peut réduire. On sait que, par exemple, les dépenses d'aide aux entreprises, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an, tout type d'aide confondu. Évidemment, la question n'est pas de supprimer ces 200 milliards d'euros de but en blanc, mais il faut s'interroger sur leur efficacité. Certaines aides économiques aux entreprises ont été façonnées de manière à créer de l'emploi, à inciter l'innovation, à inciter l'investissement dans des technologies vertes. Or, on voit que certains de ces impôts-là ont été mal calibrés. Ils n'atteignent pas les bénéfices escomptés, ça n'a pas vraiment un effet incitatif pour les entreprises. Et ben, dans ces cas-là, il faut être ferme et se dire qu'on peut revenir sur ce type de mesures.
Il y a moins d'un mois, le Premier ministre Michel Barnier présentait enfin à la liste de ses ministres. Dans la foulée, le nouveau Front Populaire déposait une motion de censure contre ce gouvernement qui a été rejetée par l'Assemblée nationale. Honnêtement, est-ce que c'était une surprise pour vous?
Que la motion de censure soit rejetée?
Oui.
Je dirais pas que c'est une surprise, simplement je pense que c'est une confirmation du fait que le gouvernement actuel est totalement dépendant du bon vouloir du Rassemblement National sur sa survie ou non. Et d'une certaine manière, ça a été confirmé par Marine Le Pen et ses équipes. Lorsqu'elle cessera d'être en soutien de ce gouvernement, alors il tombera immédiatement. Donc c'est ça que je choisis d'en retenir.
Un autre point de désaccord avec le gouvernement actuel, une nouvelle loi immigration. Il y aura besoin d'une nouvelle loi. Ce sont les mots de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, confirmant que l'exécutif prévoyait un nouveau texte sur l'immigration dont l'examen pourrait démarrer début 2025 au Parlement. Une loi qui est aux antipodes de ce que prône le nouveau Front populaire.
Une loi qui est aux antipodes, en effet, de ce que prône le nouveau Front populaire et une loi qui est par ailleurs aux antipodes de ce dont la France a besoin. C'est un mensonge de dire que la France a besoin d'une nouvelle loi sur l'immigration, alors même que la loi précédente, dont par ailleurs je conteste évidemment le fondement, la logique, le contenu politique, cette loi n'a pas été encore mise en œuvre parce que tout simplement les décrets d'application n'ont pas été adoptés pour leur grande majorité. Par ailleurs, on a sur les sujets migratoires un empilement de lois depuis une dizaine d'années, de lois qui se veulent les plus répressives les unes que les autres, avec une volonté affichée d'accroître l'exécution des obligations de quitter le territoire, cela ne marche pas. Et donc, moi, ce que je dis sur ce sujet, sur le sujet migratoire, c'est arrêtons d'instrumentaliser ce sujet, arrêtons d'avoir une position dogmatique sur cette question, de promettre aux Français davantage de répression année après année est un mensonge et qui par ailleurs n'est pas souhaitable. Et donc sur cette question, il faut à la fois avoir une approche humaine et morale. Il ne faut évidemment pas stigmatiser les migrants. Il faut avoir une conscience de ce que les migrants apportent à la France. Et puis il faut, même dans une vision économique et pragmatique, il faut poser les questions très rationnellement. Lorsque le Rassemblement National, pendant les élections législatives, lors de la campagne, a promis le sang et les larmes en disant on aura une politique extrêmement répressive vis-à-vis de l'immigration, quasiment tous les syndicats patronaux ont dit que ça serait extrêmement difficile pour l'économie française de survivre sans les migrants qui travaillent tous les jours d'arrache-pied en France. On a des secteurs qui dépendent exclusivement ou quasi exclusivement, qui dépendent grandement des migrations. Je pense par exemple au secteur du BTP, donc du bâtiment, de la construction, mais aussi le secteur de la restauration. Et donc, sur ce sujet, ayons une approche pragmatique, sereine, morale et humaine, et regardons les choses sereinement. Mais ce n'est pas du tout ce que prône le gouvernement, et je pense que là, il tombe dans une forme de démagogie qu'il faut absolument combattre.
Le Figaro, hier, a sorti une enquête révélant que les Français sont largement favorables à l'idée d'un nouveau texte pour la loi immigration. 71% des Français estiment qu'une nouvelle loi sur l'immigration serait efficace. 57% pensent qu'elle améliorerait la situation. Ça vous surprend ?
Oui, ça me surprend et en même temps, ça me surprend pas. Je pense qu'il faut expliquer les enjeux clairement aux gens et forcément que quand dans les médias, quand on parle sans cesse de la question migratoire et qu'on instrumentalise ces questions, alors ça a un effet sur l'opinion et je pense que c'est que le gouvernement là se rend coupable d'alimenter cette idée selon laquelle l'immigration serait la cause de tous nos maux. Et donc je pense qu'il faut absolument cesser ce discours et je prends un exemple sur la question de l'instrumentalisation du sujet des OQTF. Lorsqu'il y a ce drame total qui est survenu où cette jeune femme appelée Philippine a été retrouvée violée et morte, il me semble, dans un bois près de Paris, tout de suite la question a tourné autour de la question migratoire. On n'a jamais parlé de la question de la lutte contre les violences sexuelles, de la lutte contre le viol, de la manière de prévenir la récidive, etc. On a tout de suite tourné cette question vers le sujet migratoire. Et donc il me semble sur ce sujet qu'il faut absolument lutter contre les positions stigmatisantes et qu'il faut réfléchir sereinement.
Notre émission approche de la fin, alors une question un peu plus personnelle. Le député de l'Isère, Hugo Prévost, accusé de violence sexuelle, a annoncé sa démission. Serez-vous candidate au poste de député de la première circonscription de l'Isère dont on entend tant parler ?
Ça dépend si les conditions sont réunies et si les militants souhaitent que je sois candidate.
C'est une réponse qui n'en est pas encore une tout à fait, mais
tout à fait.
On l'espère bientôt. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Lucie Castet, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes ce soir en meeting pour le nouveau Front populaire à la salle Christiane Faure de Limay à 20h, aux côtés entre autres de Benjamin Lucas, député des Yvelines, et Jamel Nedjar, maire de Limay. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. À très vite pour une nouvelle émission sur BPM.
BPM 102.1.